Vous vous rappelez, la dernière fois, donc ça remonte, ça doit être bien un mois, on n'avait pas pu finir l'étude qui était programmée. En fait, on n'avait pas pu faire du tout le chapitre 2. C'est ce que je vous propose ce soir. On prend le temps qu'il faut pour cela. Et puis après, mais en fonction du temps, soit ça sera l'heure, soit je laisserai la place à Georges pour la suite. Ou alors, si vraiment on est très très proche de l'heure, eh bien, on verra même à passer un moment dans la prière. Voilà. On ne se presse pas de toute façon. On prend le temps qu'il faut. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en octobre, il y a 5 mardis. Donc finalement, on avait prévu 2 mardis de prière. On va faire plutôt 3 mardis d'études bibliques. Donc il y aura mardi prochain. Et dans 15 jours aussi, ce sera également une étude biblique. Voilà, comme ça, on est tranquille pour étudier ces passages qui sont quand même, il faut le dire, très très riche. Alors, malgré tout, très rapidement, je vous fais un petit résumé pour éventuellement ceux qui n'étaient pas présents. On est dans la première lettre aux Corinthiens. La ville de Corinthe, vous vous rappelez, c'était une très très grande ville, environ 700 000 habitants, donc voilà, quelque chose de conséquent, avec un emplacement stratégique entre deux ports, ce qui apportait une économie florissante à cette ville. Et avec des mœurs totalement dégradées, puisque même corinthianiser, c'était, ça voulait dire, eh bien, se livrer à la débauche la plus grossière, et avec aussi énormément d'influence de certaines religions. Il y avait le temple d'Aphrodite avec des prostituées sacrées qui allaient en ville tous les soirs. Voilà. Et dans cette ambiance vraiment très difficile, eh bien, on trouve l'église de Corinthe qui, eh bien, se laissait peut-être un petit peu gagner par cet état d'esprit mondain et qui avait des pratiques qui allaient à tel point que Paul va dire à un moment ce que vous faites, même les païens ne le font pas. Et c'est un petit peu pour rectifier cela que Paul va écrire cette lettre et également pour répondre à des questions. Et on a vu donc le chapitre 1 avec, malgré tout, même si c'était des chrétiens, on va dire un petit peu particuliers dans leur pas très spirituel, va-t-on dire, malgré tout, Paul va leur dire: le Seigneur est fidèle et il va vous affermir jusqu'à la fin, et c'est lui qui le fera. Et ça, c'est quelque chose de tellement encourageant qui nous donne une certitude, et j'aime à le rappeler, c'est une certitude pour nous. Nous avons la vie éternelle. Nous avons un salut qui est parfait, qui est complet, qui a été à la croix accompli par notre Seigneur, et nous avons la vie éternelle, nous lui appartenons pour l'éternité. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire déjà comme enseignement. Et puis Paul va ensuite enchaîner sur ce qui ne va pas, et il va commencer par les divisions, et il va donc au chapitre 1er parler de ces divisions. Les uns sont pour Paul, les autres pour Apollos, les autres pour Céphas. D'autres disent aussi, nous on est pour Christ. Et il va les renvoyer tous dans leur 22, parce que même ceux qui disent, nous on est pour Christ, en fait, Paul sait que c'est avec des pensées qui ne sont pas celles, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, parce que c'est quelque part pour prendre de haut leurs frères et sœurs, et pour montrer qu'eux, ben voilà, ils sont un petit peu différents. Donc il les renvoie tous dans leur 22. Et puis, il va leur dire, eh bien voilà, hein, si vous vous attachez à un homme, ça veut dire que vous vous attachez à la sagesse humaine, et cette sagesse est dérisoire par rapport à la sagesse de Dieu. Et ça va être vraiment cette comparaison. Et il y a un verset clé qui vraiment doit nous accompagner tout au long de l'étude de cette lettre. C'est lorsque Paul dit, les Juifs recherchent les miracles, les Grecs recherchent la sagesse. Nous, on ne cherche ni les miracles ni la sagesse, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Et c'est vraiment un verset clé qui va illuminer un petit peu pour notre compréhension toute cette étude. Voilà. Alors, on va lire le chapitre 2 et on va commencer vraiment par le chapitre 2. Donc, est-ce que quelqu'un ou deux personnes veulent le lire ?
La totalité ?
On lit tout le chapitre, oui. Il est assez court, hein. Il y a juste 16 petits versets.
Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient que sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.
Merci bien. Alors, quand on prend donc la première partie, on voit que, pour moi, frère, il y a donc un lien avec ce qu'il dit auparavant. Et c'est le verset 31 du chapitre 1, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et c'est un texte qui est tiré de... Alors, je vous mets de nouveau les versets pour ceux que ça pourrait intéresser. Voilà. Et c'est donc un texte qui est tiré de Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24, que je vous lis. Comme ça, on a un petit peu le contexte de ce passage que Paul va citer ici. Il dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel. » Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et en fait, on voit que c'est un petit peu plus complet, ça nous donne quelques pistes de ce passage de Jérémie, et ça nous montre qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous détourner finalement du principal, qui est tout simplement le Christ. Et voilà, qui peuvent tellement facilement être pour nous des sujets de gloire. Et Jérémie va parler de beaucoup de choses, la sagesse, la force, la richesse, et on peut rajouter aussi tellement d'autres choses. Et notamment, Paul va reciter ce passage aussi. Il va le reciter dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 17. Il va prendre ce même passage de Jérémie, mais cette fois-ci dans un contexte vis-à-vis de responsables spirituels. Et c'est pour vous dire que, finalement, l'orgueil de l'homme n'a pratiquement pas de limite. Et tout peut être prétexte à finalement, s'en fait d'orgueil. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, c'était des responsables spirituels qui étaient très fiers de ce qu'ils faisaient. Et Paul va citer strictement le même passage. Et tout cela, donc, il va le développer. Et il va le développer dans ce chapitre 2. Et je voulais partager, alors on peut faire différemment, hein, mais là je l'ai partagé en 3. Il va développer ceci, il va dire que l'évangile est centré sur l'œuvre de Christ, et uniquement l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est du verset 1 au verset 5. Après, il va comparer la sagesse des hommes à la sagesse de Dieu. Et il va dire, mais voilà, l'évangile, c'est ça, la véritable sagesse. Des versets 6 à 9. Et puis, ensuite, il va dire, mais cette sagesse, hein, la parole, l'évangile, ne peut être révélée que par l'Esprit. Et ça, c'est donc des versets 10 à la fin. Donc voilà, on va prendre un petit peu ce découpage. Je vais quand même enlever un petit peu d'aigu parce que j'entends siffler et ça m'énerve. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux. Oui, moi en tout cas, j'entends plus siffler. Donc, voilà. Donc verset 1 à verset 5, on les reprend. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et donc, il va... Alors, je change ici, oui. C'est bien ça, oui. Paul va donc rappeler quelle était sa position, son état, lorsqu'il s'est présenté devant les Corinthiens. On a cette description dans Actes au chapitre 18, mais sans donner de détails. Et ici, on a des détails qui sont quand même très intéressants. Et on voit vraiment qu'il y a un lien avec ce qui est dit précédemment, lui... Hors de question de se glorifier. Ce qu'il voulait, c'est que toute la gloire revienne à Dieu. Il n'est pas venu à Corinthe pour se forger un fan club, pour avoir des disciples qui allaient le suivre. Non, non. Il est venu uniquement pour la gloire de Dieu. Et c'était un petit peu en contradiction aussi avec ce qui se passait dans la ville, où beaucoup de philosophes cherchaient avec leur sagesse à avoir des disciples qui les suivent, et finalement chercher à se glorifier. Et Paul prend tout à fait le contre-pied. Et il va même aussi nous dire ici qu'il ne va pas s'appuyer sur des discours éloquents. Ce n'était pas du tout question d'employer des arguments habiles, vraiment des choses qui puissent frapper l'esprit, mais qui finalement auraient été un moyen pour lui de se glorifier. Il a laissé ça aussi de côté. Finalement, s'il avait basé sa persuasion sur sa sagesse, sur ses discours, eh bien, ça aurait été un échec. Ça aurait été un total échec, parce que la foi des Corinthiens aurait été basée sur quoi? Sur quelque chose de tellement fluctuant. Et lui, il a voulu recentrer tout cela vraiment sur Jésus-Christ, et uniquement sur Jésus-Christ. Et c'est déjà une leçon pour nous aussi, que vraiment, nous soyons gardés, qui que nous soyons, et quel que soit aussi notre service, que nous soyons gardés, d'avoir toujours cette pensée, centrée, toujours les regards sur Jésus-Christ. Nous sommes en fait, quelqu'un disait que nous sommes des poteaux indicateurs, tout simplement, comme nous trouvons au bord des routes, et qui indiquent une direction. Et ce qui est important, c'est la direction, c'est pas le poteau. Et pour nous, c'est la même chose. Notre rôle, c'est d'indiquer Jésus-Christ et l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. J'ai lu une petite illustration, c'était dans une église, il y avait un vitrail magnifique qui représentait le Christ en croix, et le pasteur a invité un pasteur à venir prêcher, et ce pasteur était tout petit, alors que le pasteur de l'église était très grand. Et une petite fille regardait cela, et puis elle a demandé à sa maman, « Maman, il est où celui qui normalement cache le Christ ?» Alors c'est juste une petite illustration, c'était pas du tout le cas de cet homme, voilà. Mais quelque part une illustration pour nous montrer que non, on n'a pas à faire de l'ombre à la véritable lumière. Nous, si on se met entre la lumière et la personne qui doit la recevoir, on ne peut faire que de l'ombre. Donc voilà, c'est pas notre rôle, c'est un petit peu comme les phares des voitures qui sont salis, qu'il faut nettoyer, poncer, etc. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui bloque la lumière. Et vraiment, que Dieu nous garde de ne jamais bloquer la lumière. Et la lumière, c'est Christ. Et comme Paul, que nous soyons toujours persuadés que, eh bien voilà, nous devons annoncer Christ, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Voilà. Et voilà ce que Paul va dire ici. Et puis, une petite précision aussi, ce verset-là, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Des fois, vous verrez des commentaires, si vous prenez des commentaires, très très souvent, qui disent que, en fait, ce que voulait dire Paul, c'est que les Corinthiens étaient tellement immatures qu'il n'a pas été au-delà de la crucifixion du Christ. Mais ce n'est pas du tout de ça qu'il est question. Ce n'est pas du tout de cela. Parce que pour accepter l'œuvre de Christ, il ne s'agit pas d'être un chrétien mature. pour accepter l'œuvre de Christ, il s'agit simplement d'ouvrir son cœur. Et quand Paul parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, il s'agit du véritable Christ qui a donné sa vie sur la croix. Mais il parle aussi de sa résurrection. Et déjà, au chapitre 1, il va en parler. Il va dire, Dieu est fidèle, il vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc cette communion, c'est que Christ est ressuscité. Et puis, il va dire, Jésus-Christ vous affermira jusqu'à la fin. Donc, il parle aussi même déjà du retour de Christ. Et il y a tout un chapitre de cette épître qui est consacré à la résurrection. Donc, évidemment que c'est de l'œuvre complète de Christ dont il est fait mention ici. Alors, il va aussi, au verset 3 et 5, rappeler de façon plus précise les circonstances qu'il a traversées. Lorsque j'étais auprès de vous, j'étais dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il rappelle donc son état. Là aussi, pratiquement tous les commentaires que j'ai lus disent que la crainte de Paul, c'était finalement que l'œuvre de Dieu, que l'évangile ne soit pas accepté à Corinthe. Alors peut-être. Mais moi je me dis finalement, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement prendre ce texte de façon tout à fait littérale et se dire que Paul finalement, est-ce qu'il n'était pas quelqu'un comme nous? Est-ce qu'il n'était pas comme nous, avec sujet à la crainte, sujet finalement des fois à des inquiétudes? Moi je pense qu'il était quelqu'un comme nous. Et quand on prend la parole de Dieu, on voit que des hommes de Dieu, eh bien, ont montré qu'ils étaient faits de la même pâte que nous. Et moi j'aime beaucoup Azaph qui vraiment est tout le temps en train de douter, en train de se poser des questions et d'appeler finalement après comme réflexe Dieu au secours. Et je me dis que ça peut être aussi une explication tout simplement. Et vous savez, faiblesse, le terme, le mot grec de faiblesse, c'est asthénia. On connaît asthénia, ceux qui sont dans la médecine connaissent cela. Ce mot est presque dans presque tout le début du Nouveau Testament, il est traduit par maladie. Il y a énormément de versets, je vous en lis un, Jean 5, 5. Là se trouvait un homme malade, donc asthénia, depuis 38 ans. Et puis, il est traduit aussi parfois par infirmité. 2 Corinthiens 15, 5. Je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Infirmité, asthénia. On peut s'interroger aussi sur l'état de santé de Paul, tout simplement. On sait de toute façon qu'il avait vécu des choses vraiment difficiles, puisqu'il avait été emprisonné, etc. Vous connaissez son histoire. Et donc, il était, quand il s'est présenté à Corinthe, dans un état peut-être aussi, au niveau santé, qui était aussi difficile. Ça peut toujours être une explication également. Mais, et puis, il va nous dire ailleurs aussi qu'il était, il pouvait être craintif. De Corinthiens 7, 5, il va dire, nous n'avons eu aucun instant de repos, toutes sortes de détresses, conflits au dehors, craintes au dedans. Il va dire aussi en 2 Corinthiens 4, 8, accablé par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasé. Ça c'est beau. Souvent désemparé, mais non désespéré, parce que le chrétien a toujours une espérance. Mais vous voyez, terrassé, mais pas anéanti. Donc il était dans des situations humainement tellement difficiles, mais avec toujours cet espoir qui est l'espoir que nous apporte l'évangile, que nous apporte Jésus-Christ. Et donc, là aussi, il était dans un état, voilà, et puis il a peut-être bafouillé, il n'avait pas une éloquence, et il dit, mais tant mieux, parce que finalement, vos regards n'étaient pas fixés sur moi, sur mes capacités, mais véritablement sur Dieu. Et il va dire aussi, en 2 Corinthiens, 12, 9 et 10, il va dire, j'ai prié le Seigneur d'éloigner donc cette écharpe de mon corps. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Et il va dire, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, encore asthénia, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et surtout cette parole que je voudrais relever, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et pourquoi cela? Parce que quand je suis faible, quand je suis conscient de ma faiblesse, en fait, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de me reposer sur la puissance du Christ. Et c'est comme ça que je suis fort. Et si je commence à me confier dans mes capacités, là c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Et là, c'est une leçon qui est importante. C'est une leçon qui est vraiment importante parce que nos déficiences ne vont jamais empêcher Dieu d'agir. C'est plutôt notre confiance en nos propres capacités qui peut empêcher Dieu d'agir. Jamais nos déficiences. Ce qui veut dire que, qui que nous soyons, nous pouvons être un serviteur, une servante utile pour Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas pour ça que Paul va dire qu'il faut mal prêcher, hein, pas du tout. Il faut, je chante très très bien, mais je vais faire esprit de faire des fausses notes, etc. Ce n'est pas du tout ce que Paul dit. Évidemment, le Seigneur nous a donné des capacités, mais il veut qu'elles soient à son service, pour sa gloire. Et Apollos, dont il est question ici, qui a pris la suite de Paul, Apollos, Acte nous dit que c'était un brillant orateur et qu'il a été fort utile pour l'œuvre de Dieu. Et donc voilà, mais Apollos, s'il a été fort utile pour l'œuvre de Dieu, c'est parce qu'il ne se confiait pas dans ses talents d'orateur, mais c'est parce qu'il se confiait en Jésus-Christ, tout simplement. Voilà. Et puis, quelque chose d'important aussi, Paul va parler ici d'une démonstration d'esprit et de puissance. Au verset 4. Et là aussi, il faut vraiment prendre ce verset dans son contexte immédiat. Paul a pu prêcher avec des démonstrations, des signes miraculeux. On sait que un jour, il enseignait, et puis ça a duré. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas durer autant. il a enseigné toute une nuit. Et puis un jeune homme a eu la mauvaise idée de s'asseoir sur le rebord de la fenêtre qui était ouverte. C'était à l'étage. Il s'est endormi. Et puis, il est tombé. Mais malheureusement, il était mort. Et Paul, par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, a fait revenir, a ressuscité cet homme. Enfin, c'est Dieu qui a ressuscité cet homme par l'intermédiaire de Paul. Donc, Paul vraiment pouvait faire des miracles. Mais ici, ce n'est pas du tout de cela dont il est question. C'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que les signes et les miracles. Ça va bien au-delà. C'est vraiment l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est vraiment cela. Et souvent, on oublie un petit peu cette puissance qu'est l'évangile, la bonne nouvelle du salut. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est vraiment ça que Paul veut mettre en avant. Et il va en parler ensuite en de nombreux passages dans cette première lettre aux Corinthiens. Et le verset 5, « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, surtout pas, mais sur la puissance de Dieu, sur l'Évangile qui est la puissance de Dieu, sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà l'objet de notre foi. L'objet de notre foi, c'est vraiment le Christ et le Christ lui-même. Et pour cela, Paul, il accepte cette faiblesse. Et en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il va dire « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Des vases de terre, fragiles. Il va parler ailleurs d'une tente, une tente qui se dégrade de jour en jour. Mais il dit « Notre homme intérieur est renouvelé, justement, par cette puissance de Dieu. » Et voilà, afin que, c'est vraiment le point essentiel, que la foi des Corinthiens soit fondée sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, on passe donc au verset 6 à 9. On les lit quand même, on les a lus, oui, mais pour avoir une vue d'ensemble, on les lit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà, donc l'Évangile, la véritable sagesse en opposition à la sagesse des hommes. Et Paul va préciser que ce n'est pas une sagesse qui est de ce siècle. Donc, traduction, ce n'est pas une sagesse humaine, d'ici-bas. C'est une sagesse qui vient d'en haut, elle n'est pas de ce monde. Et il va utiliser des termes qui sont des termes empruntés aux religions gréco-romaines, qui utilisait beaucoup certains vocables, notamment parfait, mystère. Et ce sont des termes qui se retrouvent dans ces courants spirituels. Mais lui, il va renverser le sens un petit peu de cela. Il va quelque part peut-être aussi faire esprit d'employer ces termes, parce qu'il est fort probable que beaucoup de chrétiens de Corinthe s'étaient fait un petit peu emporter par les religions qui les entouraient et qui étaient donc à leur porte, aux portes de leur église. Alors parfait. Parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va dire, waouh, wow, si nous prêchons parmi les parfaits, si c'est ça l'évangile, peut-être qu'il va falloir qu'on revoie notre position. En tout cas, moi, j'ai rien à faire là. Voilà. Bon, parfait, ça doit avoir une autre idée. Le terme télios, il est utilisé dans d'autres passages, donc ça nous éclaire pour les traductions. 1 Corinthiens 14-20. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Adultes télios. Donc, voilà, l'idée, c'est une idée de maturité. C'est une idée, voilà, d'être adulte en Christ. Et dès qu'on vient au monde, on commence notre maturité, notre cycle, et on commence à grandir. C'est de cela qu'il est question. Voilà, c'est de cela qu'il est question, ici. Et donc les parfaits, c'est tout simplement ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà tout simplement ce que veut dire Paul ici. Et puis, quand il parle de mystère, là aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous lis dans Romains 16, 25, « Celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, dans l'explication, mais manifestée par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et portée à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Un mystère, c'est quoi? Et c'est Jean qui aime souvent à nous le répéter. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché à vue humaine, que l'homme ne peut pas connaître, mais qui est révélé par l'Esprit, par la parole de Dieu, par Jésus-Christ. Voilà ce que c'est. Et donc, ce que dit Paul ici, voilà, nous prêchons parmi ceux qui sont nés de nouveau. Une sagesse qui n'est pas de ce monde, sinon les chefs de ce siècle n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Une sagesse mystérieuse et cachée, mais qui a été révélée par la parole de Dieu. C'était vraiment révélé par la parole de Dieu. Et, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Je vous relis 1 Corinthiens 1, le verset 29, « Que personne ne se glorifie devant Dieu. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire là? Sagesse qui a été prédestinée pour notre gloire, mais que personne ne se glorifie devant Dieu. On peut dire qu'il se contredit là, Paul. Alors, c'est quoi l'explication? Alors, il y a des versets aussi qui nous permettent de comprendre un petit peu, et c'est toujours bien de prendre la parole de Dieu dans son contexte immédiat et dans son contexte général. Alors, Colossiens, est-ce que c'est ici je ne vous l'ai pas mis, celui-là. Non, je ne vous l'ai pas mis. Je vous le lis. Colossiens, chapitre 3, verset 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc, une première chose qui nous est indiquée ici, « Quand Christ reviendra, eh bien, vous serez avec lui dans la gloire. » Et puis, Romains 5, chapitre 2. Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, en fait, qu'est-ce que cela dit? C'est que notre Seigneur, eh bien, il veut nous faire partager sa gloire. Et lorsque nous serons dans les cieux avec lui, nous partagerons sa gloire. Et un dernier verset que je vous lis dans Colossiens chapitre 1, je vous lis juste la fin du verset 27, là aussi il parle de mystère, et parmi les païens, mais il va dire « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Voilà. Notre destinée est dans les cieux, où nous serons rendus semblables à Christ, et où il partagera sa gloire avec nous. Il y a aussi le verset 9, que l'on peut des fois mal comprendre, Alors, je vous donne juste le commentaire de MacArthur que j'ai dans ma Bible. Là. Après, il le commente un petit peu différemment aussi dans un bouquin. Ce qu'il est dit ici, donc je vous le relis. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et c'est une adaptation d'Ésaïe, chapitre 64, verset 3. Et en fait, dans le contexte d'Ésaïe, Israël était en déportation, dans l'inquiétude, bien entendu, et Israël s'est adressé à Dieu, et Dieu a répondu en quelque sorte, mais j'ai un plan pour vous. J'ai un plan pour vous, donc vous ne devez pas craindre. Et ce plan, voilà, je vous le révèle. Et Paul prend ce verset et l'applique à l'Église. Il dit, voilà, ce sont des choses qui sont humainement, totalement bien, hors de notre portée, de notre conception. Mais ces choses-là, je vous les révèle pour que vous sachiez que oui, j'ai un plan pour vous. Et que vraiment, voilà, ce plan est parfait et vous avez une espérance. Voilà ce que dit Paul ici. Des choses voilà, que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues. Donc ce sont des choses qui, humainement, sont inaccessibles. Mais moi, je vous les révèle, et je vous les révèle dans le contexte d'Ésaïe, pour vous montrer que voilà, j'ai un plan parfait pour vous, un plan qui a été vraiment de toute éternité, et qui était là pour votre salut. Voilà un petit peu quelques explications pour ces versets qui peut-être des fois peuvent paraître un petit peu obscurs. Et donc, on passe à la dernière partie. Je vais un petit peu accélérer. Je crois que tu ne m'en voudras pas, Georges, si...
Non, mais je peux pas me prendre.
Oui, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Il faut que je te laisse la place, je pense. Oui. Voilà, désolé, mais bon, après on en avait parlé. Oui. Donc, les versets 10 à la fin. Donc, ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui habite en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, il revient toujours à cette sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Le contraste, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour instruire? Or nous avons la pensée de Christ. On pourrait rien que s'arrêter à ce dernier verset qui est merveilleux. Mais il y a beaucoup de choses, et... ici aussi, voilà, juste très très rapidement, je l'avais divisé aussi en trois parties. On prend les versets 10 et 11, et je vous le lis dans la version Semeur, parce que ça peut aussi nous aider à avoir une bonne compréhension de ce que Paul veut nous dire ici, de ce que l'Esprit veut nous dire. Or, Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe en moi? Moi, je le sais. Bon, à peu près. Mais vous ne pouvez pas trop le savoir. Donc voilà, c'est ce que dit Paul. Voilà. C'est vraiment l'homme lui-même, l'individu, qui peut savoir ce qui se passe en lui. Eh bien... De même, c'est l'Esprit de Dieu qui sait, hein, qui scrute, nous est dit ici, ce qui appartient à Dieu. Et qui connaît parfaitement ce qui appartient à Dieu. Et c'est cet Esprit que nous avons, que Dieu nous a donné. Et c'est cet Esprit qui nous instruit et qui nous permet de comprendre les mystères de Dieu, qui nous permet de comprendre, c'est vraiment cet éclairage qui nous permet de saisir le message de Dieu. Si on n'a pas cet éclairage, eh bien finalement on ne comprend pas grand-chose. Et on peut étudier la Bible, l'étudier pendant des années, des mois, des années, des décennies, mais si on n'a pas l'éclairage de l'Esprit de Dieu, ça restera un livre plus ou moins obscur, un livre avec des intérêts, peut-être historiques, mais ça sera très limité. Mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui peut nous apporter cet éclairage. Et Paul dit, or nous avons l'Esprit de Christ, nous avons l'Esprit de Dieu. Et quelque part, c'est tout à fait logique, hein, c'est tout à fait cohérent. Comment appréhender celui qui est infini avec nos propres capacités? C'est mission impossible. Il faut vraiment que nous ayons un équipement qui nous permettent d'appréhender l'infini. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un disait qu'une fourmi, elle ne sait pas grand-chose sur l'homme. L'homme, par contre, commence à savoir pas mal de choses sur la fourmi. Mais encore, c'est limité. Il disait, mais voilà, c'est un petit peu, mais en tellement limité, nous, par rapport à Dieu. On en sait sans doute même moins qu'une fourmi par rapport à l'homme. Mais voilà, Dieu envoie son esprit qui nous éclaire. Et qui nous permet même pour l'incrédule, c'est l'esprit qui convainc de péché. Et c'est l'esprit vraiment qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre la pensée de Dieu. Et 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il nous a donné l'intelligence, en fait, c'est son esprit qui nous a donné, pour connaître le véritable. Ensuite, le verset 12, juste la première partie. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et juste aussi quelques précisions ici, qui sont tellement importantes. Celui qui reçoit Christ dans sa vie a l'esprit de Dieu. Nous avons tous l'esprit de Dieu. Nous avons tous reçu l'esprit de Dieu. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Je ne me suis pas noté, donc je le prends. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Que faut-il pour avoir cet esprit, donc des fleuves d'eau vive ? Simplement croire. Celui qui croit en moi, celui qui l'accepte dans sa vie, celui qui croit avec son cœur, croire, ça engage toute la personne, eh bien, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est très clair. Et puis Romains 12, verset 13, et on y reviendra quand on sera au chapitre 12. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et Paul s'adresse à des chrétiens qui ont une vie souvent dissolue. Ce ne sont pas des chrétiens matures, ce ne sont pas des chrétiens spirituels, mais eux aussi ont été abreuvés, ont été baptisés dans un seul esprit. Donc quand nous acceptons le Christ, eh bien nous sommes baptisés dans son esprit. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est important. L'esprit donc demeure dans les chrétiens. Et puis, l'esprit aussi, je vois que mon diaporama, c'est un petit peu n'importe quoi. Désolé. Ouais, je ne sais plus trop où j'en suis. Mais on continue, on finit. L'esprit, et c'est ce qu'on disait, est celui qui nous instruit. L'esprit est celui qui nous instruit. Je vous lis donc dans Jean au chapitre 16, donc c'est la diapositive suivante, les versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, le Christ parle à ses disciples, qu'il a instruit pendant 3 ans, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Et voilà ce qui est important aussi, on a vraiment un condensé de l'instruction du Saint-Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le ministère du Saint-Esprit, c'est vraiment de nous montrer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est le chemin qui nous amène au Père. Et on voit comme ça toute la Trinité qui est impliquée dans notre salut. Le Saint-Esprit qui nous instruit, qui prend de ce qui est au Christ, qui nous l'annonce. Le Christ qui est le chemin, qui nous montre le Père, qui est la seule voie d'accès pour nous présenter devant Dieu. Et puis le Père, dans son amour, qui a envoyé son Fils, qui a envoyé son Esprit. Toute la Trinité est impliquée pour notre salut complet, lorsque nous avons été lavés de nos péchés, mais aussi notre sanctification. Tout cela, eh bien, la Trinité toute entière est impliquée. Et le verset 13, on voit qu'il y a toujours cette opposition entre la sagesse humaine et l'enseignement de l'Esprit. L'enseignement de l'Esprit qui est totalement différents. Et Paul va parler de l'homme naturel. L'homme naturel, et puis après il va parler de l'homme spirituel. Alors l'homme naturel, c'est qui? C'est tout simplement l'homme irrégénéré. L'homme qui n'a pas encore accepté Christ dans sa vie. Lui, c'est l'homme naturel. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui a l'esprit de Christ, de Dieu, en lui. Et c'est pour ça qu'il est spirituel. Et que l'homme est simplement un homme, d'ici-bas, finalement. Tout simplement, l'homme naturel. Voilà. Il y a cette opposition. Et Paul parlera dans le chapitre 3 d'une troisième, une troisième catégorie. Il va parler de l'homme charnel. Mais ça, c'est toi, Georges, qui nous expliquera. Et comment on peut comprendre le verset 15 ? L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Est-ce que ça veut dire que finalement, on a une position et puis personne n'a rien à dire ? Bon, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ce que Paul nous dit, c'est que l'homme naturel, il ne peut pas comprendre l'homme spirituel. Tout simplement parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ en lui. Donc c'est quelque chose qui est inaccessible pour lui. Et quand vous parlez de Dieu, du Seigneur, à des fois des personnes que vous connaissez, vous voyez avec leur réaction qu'elles ne comprennent pas, on n'est pas compris souvent. Mais qu'est-ce que tu vas t'embêter tous les dimanches matin, tu te lèves pour aller au culte, mais qu'est-ce que tu trouves d'intéressant? Et puis des réflexions comme ça, on peut en trouver. Et les chrétiens persécutés, ils ne sont pas du tout compris. Mais comment peux-tu aller jusqu'à donner ta vie pour simplement refuser de renier le Christ? Et les premiers chrétiens qui attestaient que Christ était ressuscité, ils n'étaient pas compris. Mais l'homme naturel ne peut pas nous comprendre. Mais nous, on peut comprendre l'homme naturel puisqu'on l'a été. Donc on peut parfaitement le comprendre. Et là aussi, il y a la traduction Sommer qui était intéressante, mais je ne me la suis pas notée. J'en ai peut-être... Oui.
Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit, qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous, nous avons la pensée de Christ.
Voilà. Et alors, vraiment, moi je trouve cette fin de chapitre tellement, tellement encourageante. Mais nous avons la pensée de Christ. Et quand Paul dit nous, il s'adresse à vraiment tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie. Nous avons la pensée de Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est un repos pour nous. Parce que nous savons que, nous avons cette possibilité de nous laisser tout simplement conduire par l'Esprit de Dieu. Nous avons cette pensée, et cette pensée qui va nous garder tout autour de nous, dans notre quotidien de difficultés. Et simplement, et on verra après, il faut simplement laisser à l'Esprit de Dieu, que nous avons tous, toute la place. Et ça aussi, on va y revenir dans les passages qui vont suivre. Voilà. J'ai terminé, j'étais un petit peu plus vite à la fin pour pas trop déborder. Donc peut-être que vous avez un commentaire à donner, ou une réflexion, ou une question. Question si je puis répondre. Non ?
Non, le Saint-Esprit qui est en nous valide ce que tu as dit. Je...
Super. Mais c'est vrai aussi que l'enchaînement du verset 9 au verset 10, par rapport au verset 10, en fait, le verset 10 éclaire le verset 9 pour moi.
C'est ça.
Complètement.
C'est tout à fait ça.
Parce qu'en fait, ça m'a fait penser aussi à Nicodème. Nul ne peut connaître le royaume de Dieu s'il n'est pas drôle d'eau et d'esprit. Et c'est vrai que quand on vient à Christ, on a des écailles qui tombent.
C'est ça.
On a une révélation qui s'impose à nous. Et on voit le monde, d'une manière, mais complètement différente.
C'est ça. Et à mettre en opposition, tu as tout à fait raison, en plus je me l'étais marqué, tu vois, donc c'est bien, c'est vraiment l'éclairage du chapitre 9, et à mettre en opposition aussi avec les parfaits, avec le mystère, et surtout les parfaits selon les religions d'alors, et qui se retrouvent encore, ces courants spirituels qui se retrouvent encore aujourd'hui, où celui qu'on appelle le parfait, c'est quelqu'un qui a une connaissance supplémentaire, qui, par des efforts, avec... tellement de temps passé à faire toutes sortes de choses, a réussi à atteindre un stade particulier. Et puis il peut ainsi regarder les autres de haut, parce que lui, il est différent des autres. Et quelque part, ça nourrit son orgueil aussi. Voilà. Et ça, c'était vraiment l'esprit de ces religions, qui n'a rien à voir avec ce que nous voyons dans la parole de Dieu, puisque non, hein, nous voyons que par nous-mêmes, nous n'avons aucune raison de nous glorifier, mais c'est vraiment parce que le Christ fait tout en nous, et c'est sur son œuvre que nous voulons simplement nous appuyer, et ça balaye toute possibilité d'orgueil. Donc c'était important, et merci de l'avoir précisé. Alors je vous propose eh bien de terminer. Donc, est-ce que Garcia, je vous ai demandé de prier pour terminer. Merci.
Centré sur Christ et non sur nos capacités ou sur la façon de penser de ce monde, sur comment les gens regardent les autres, bref, ce qui compte c'est toi, c'est Christ avant tout, toute chose qu'on peut faire. J'aimerais que nous soyons à être centrés, focalisés sur Christ.